Cet été, c'était en plein mois d'août, un de mes plus vieux amis, un ami d'enfance, m'a téléphoné, il était bouleversé. Il était bouleversé, il était complètement perdu, il ne savait vraiment perdu à cause de l'état de sa maman, qui est atteinte depuis plusieurs années de la maladie d'Alzheimer et qui maintenant, ça fait un certain temps qu'elle ne le reconnaît même plus quand il va la voir. Mais ce jour-là, quand il était allé, il l'avait trouvé. Simplement, on lui avait apporté un plateau repas et elle était la tête, elle dormait la tête dans son assiette pleine. Et là, pour lui, c'était trop. C'était vraiment trop. Il m'a dit, mais quel sens ça a ? Quel sens ça a ? C'est une image qui m'a vraiment poursuivi, hanté encore aujourd'hui. Je l'associe dans mon esprit à, vous savez, cette scène terrible de l'Évangile quand on apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau au roi Hérode. Qui peut supporter cela ? Je lui ai dit deux choses. Comme prêtre et comme ami de longue date, j'ai bien connu sa mère, sa famille. J'ai célébré les obsèques d'ailleurs de son père. Et je sais surtout ce qui rend la situation encore plus difficile, à savoir les conflits dans la fratrie entre les frères et sœurs. Et un certain nombre de contentieux non réglés avec la mère. Évidemment, les deux vont ensemble. C'est déjà terrible, la maladie. C'est terrible, la maladie, mais c'est pire encore quand les relations de famille, quand les relations entre frères et sœurs sont conflictuelles, quand on n'est même pas en état de s'accorder, de se soutenir. Et je n'oublierai jamais une des premières leçons que j'ai reçues comme nouveau prêtre dans ma première paroisse, de la part d'un couple avec qui je faisais la préparation au baptême. C'était un couple extrêmement sympathique, assez jeune, jeune marié. Et puis il m'avait raconté, il s'était disputé un soir, assez vivement. Il s'était couché très fâché. Et pendant la nuit, il a un infarctus. Alors il s'en est sorti de justesse. Mais ils m'ont dit, et ils m'ont répété à chaque fois, jamais plus. Ils m'ont dit, même en rêve, on ne se couche plus, on ne se sépare plus sans s'être réconcilié. À cet ami, je lui ai dit deux choses. D'abord, pour nous qui croyons en l'âme, à la vie intérieure, il y a le mystère. Le mystère est le secret de notre relation à Dieu, de la relation de chaque personne avec son Seigneur, qui ne se limite évidemment pas à ce qu'on peut en voir, à ce qu'on peut en connaître. C'est, qu'est-ce que c'est un mystère ? J'ai lu cette belle définition, un secret d'amour. Que se passe-t-il pour une personne qui est coupée du monde ? Pourquoi serait-elle coupée de Dieu ? Et je croirais plutôt au contraire. Je croirais volontiers ce que je crois du très grand âge, je le dis régulièrement à un certain nombre d'entre vous, que cette séparation, ce chemin difficile, parfois très difficile, qui peut aller jusqu'à une coupure et un isolement, cette séparation du monde, c'est une préparation au passage à la rencontre du Christ, à la rencontre du Seigneur, un temps de purification, il faut l'appeler par son nom, un purgatoire. Et ce purgatoire, il est porté, comme tout ce que nous vivons, par l'entourage. Il est impossible de pouvoir le mesurer, le décrire, mais évidemment ce temps est porté par le soin, l'attention qui est apporté à cette personne, quel que soit son état. C'est ça la charité en acte, pas par des discours et des paroles, en acte et en vérité. Et c'est une charité en acte qui est efficace et pour la personne et pour ceux qui lui prodiguent du soin, pour nous. Pour elle, c'est une façon de la préparer, de la remettre en place devant l'amour en personne. Et pour nous aussi, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Vous avez vu probablement dans la rue ces affiches de la mairie de Paris qui affirme, de façon si brutale, qui affirme que l'interruption de la vie serait un droit fondamental. Comme ça, sur les panneaux dans la rue, un droit fondamental. Mais quelle violence ! Le droit fondamental, c'est d'être accueilli, c'est d'être soigné, c'est d'être respecté. Le droit fondamental, c'est la vie. On parle des migrants, on en a beaucoup parlé avec la venue du pape, des migrants qui se noient en Méditerranée. Les enfants qu'on empêche de naître, rien qu'en France, sont 100 fois plus nombreux. 100 fois. 2000 migrants se sont noyés, c'est un drame. Et avec très peu de secours d'urgence, c'est bien ça que le pape a dit, on ne peut pas laisser des gens mourir, ni noyés, ni de feu, on ne peut pas laisser, c'est une question d'urgence. Ce n'est pas la question de l'intégration, c'est la question du secours d'urgence. Mais les enfants qu'on empêche de naître, 100 fois plus. Il faut quand même se rappeler ce que disait la Mère Teresa, les prophéties de Mère Teresa sur le lien entre eux, le respect de la vie et la construction de la paix. Il n'y aura pas de paix possible sans respect de toute vie. Chacune de ces personnes est le Christ lui-même, dans le sein de sa mère, dans la fragilité de son exil, dans la chambre de son EHPAD. Nous sommes chrétiens si nous reconnaissons le Christ en toute personne, en tout être humain, depuis sa conception jusqu'à son entrée, qui peut être parfois très douloureuse, pénible, parfois pour les proches, parfois insupportable, mais jusqu'à son entrée dans la maison du Père. Et l'attention et le respect que nous portons aux plus vulnérables, à tous ceux qui sont sans défense, sans parole, qui sont incapables de s'exprimer. C'est ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les fils de ce monde. Et ce choix, nous avons tous à le faire et à le refaire chaque jour, entre être des enfants de Dieu ou des fils de ce monde. Et pour les personnes très âgées et très malades, combien plus important l'attention à leur porter quand ces personnes sont celles qui nous ont donné la vie, sont celles qui ont fait ce que nous sommes. Alors, il y a des situations familiales difficiles. Elles ont pu faillir dans leur mission. Mais ce n'est pas l'heure du jugement, ce n'est pas l'heure de la vengeance. Ce n'est pas l'heure de leur faire payer ce qu'elles ont fait par le passé. Cet ami dont je vous parle n'avait pas eu la mère aimante qu'il aurait voulu, que chacun aurait voulu. Mais je lui dis, raison de plus, maintenant que tu es grand, maintenant que tu es adulte, raison de plus pour donner ce que tu n'as pas pu recevoir. Il n'y arrivait pas, et sa raison, son intelligence butait sur ce point. Mais combien de temps ça va durer? Quel sens ça a? Quel sens ça a? Et il se trouve, c'était pendant l'été, j'avais du temps pour la lecture, le livre que je lisais sur un tout autre sujet. Vous savez, on lit des, il y a des livres, et puis tout d'un coup, il y a des phrases qui font mouche, enfin, qui tout d'un coup, qui nous touchent. Et ce jour-là, pile, une phrase de ce livre, c'était: aujourd'hui, on ne cherche plus le bien, on cherche le sens. C'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on ne cherche plus le bien, on cherche le sens. Sauf que pour nous chrétiens, auditeurs de la parole de Dieu, le seul sens qui soit, c'est le sens du bien. La Bible a une formule très forte à propos de ce qu'elle appelle les insensés, ceux qui vivent sans Dieu, comme si Dieu n'existait pas, qui sans foi ni loi. Elle dit, ils ont perdu le sens du bien. En particulier le psaume 35, il commence ainsi, il dit, c'est le péché qui parle au cœur de l'impie, ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute, il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Ce serait désespérant, ce serait même catastrophique, si la Bible, si l'Écriture, si le Christ lui-même ne nous enseignait pas ce que c'est exactement la parabole qu'on vient d'entendre, que le sens du bien se retrouve aussi vite qu'il se perd. Bien sûr qu'on peut perdre le sens du bien, mais on peut le retrouver aussi vite. C'est ça la leçon d'espérance à retenir d'aujourd'hui, avec l'histoire de ces deux fils. Le premier avait effectivement perdu le sens du bien, pas capable de rendre un service à son père. Non, je ne veux pas. Et puis, heureux est-il qui se reprend. Et le second, il pensait probablement que le sens du bien est acquis une fois pour toutes, et que ça se fait sans effort, alors c'est machinal, c'est automatique. L'exemple, ou plutôt, Jésus prend alors en exemple les publicains et les prostituées, qui avaient cet avantage, au moins à son époque, sur les bien-pensants, les anciens, les chefs du peuple, ils avaient cet avantage qu'ils ne se prenaient pas pour des saints. Ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Mes amis, il y a deux façons de retrouver le sens du bien. Dans l'épreuve et dans le service. Dans l'épreuve, quand on s'aperçoit que ce à quoi on croyait, ce sur quoi on s'appuyait, ça ne tient pas la route, qu'on s'est bercé d'illusions, qu'on est dans l'épreuve et qu'on cherche quelque chose de solide, de fiable. Et que là, quelqu'un vient. Il y a la plupart du temps un envoyé de Dieu. Parce que la deuxième façon de retrouver le sens du bien, c'est de se mettre au service de ceux qui ont besoin d'attention, de soins. S'il y avait une leçon à tirer de l'existence, on ne perd jamais son temps quand on rend service. Jamais. On peut perdre son temps quand on s'occupe de son propre confort, de son plaisir, quand on s'occupe que de soi. Mais on ne perd jamais son temps à s'occuper des pauvres, des souffrants, des malades, des anciens. C'est le Christ qui nous l'a appris, qui nous l'apprend, qui nous le répète, qui nous l'enseigne. Donne-nous, Seigneur, de retrouver le sens du bien.